ones who really love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. When they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les confusions du Pélican. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Frédéric ouvre la porte de l'appartement en évitant de faire du bruit. Dès qu'il a fermé la porte derrière lui, la lumière s'éclaire et voit devant lui son beau-père, Jules Lecoing, en robe de chambre et pantoufles marron.
« Tu rentres bien tard, Frédéric. »
Le jeune adolescent le regarde dédaigneusement.
« Tu as passé la soirée où ?»
Frédéric passe devant Jules Lecoing sans lui répondre et sans le regarder.
« Tu vas me répondre ?»
dit Jules Lecoing en le suivant. ne vous regarde pas. » Et il se dirige vers sa chambre.
« Ta mère qui m'a dit de m'occuper de toi. »
Le jeune ouvre la porte de sa chambre.
Entre et ferme la porte violemment au nez du père. Petit garnement, enfin, on fait tout pour lui être agréable et lui il vous traite comme un moins que rien.
Jules Lecoing retourne à sa chambre. Retrouve Florence au lit. Il s'approche d'elle. Lève ses chaussures et se couche. Il est rentré.
Oui.
Il t'a dit ce qu'il faisait toutes les nuits?
Non. Et je commence par en avoir assez de celui-là. À 13 ans, monsieur fait ce qu'il veut. J'ai beau lui être agréable, lui faire plaisir. Il me traite comme un moins que rien.
Il ne faut pas lui en vouloir, il est jeune. Allez, dors. Lendemain soir, Jules Lecoing va chercher Frédéric à la sortie de son collège, qui se trouve derrière l'avenue Berthelot, le collège Saint-Michel. Frédéric sort avec trois garçons de son âge. L'un des garçons, un brun, lui dit « C'est un de tes clients, le vieux là, qui te regarde ?»«
Non, malheureusement c'est mon beau-père, je te laisse. »
Jules Lecoing voit arriver vers lui Frédéric. Il a ses cheveux blonds en broussaille, porte un jean, une chemise rose et un blouson de cuir noir. Il tient son cartable à la main.
« Bonjour Frédéric. »«
Je t'avais dit de ne pas venir me chercher. »«
Mais... »«
C'est gênant pour moi. »«
Écoute-moi, je t'aime bien. J'aimerais que nous devenions amis tous les deux. »« Toi, par contre, tu cherches toujours à m'éviter. »« Chaque fois que tu me parles, c'est pour me dire que tu ne veux pas de moi. »« Pourquoi ?»«
Pour rien, je veux vivre ma vie. » J'ai mes affaires et vous, vous avez les vôtres.
Ceci n'empêche pas les sentiments. Lorsque tu rentres tard, on est inquiet, c'est normal. On se demande si t'es pas arrivé un accident ou autre. Lorsque l'on aime une personne, on a peur qu'il lui arrive quelque chose.
Oui, mais ce n'est pas une raison pour vouloir le mettre dans une boîte en coton. Et puis, il faut bien que je vive ma vie, non ?
Ma tampon sans fenêtre, j'ai pas fait mon devoir, je sèche.
Julien Lecoing se dit que c'est l'adolescence et qu'il faut être patient. Depuis son mariage, il est patient, très patient. Le fils de sa femme, qu'il aime bien, ne lui apporte pas que des satisfactions. Ses études ne sont guère brillantes. L'enfant est une mauvaise tête. Il y a de drôles de fréquentations. Frédéric se fiche pas mal de sa famille. Ce qui compte pour lui, c'est de faire ce qui lui plaît. Il se sent suffisamment intelligent pour pouvoir s'assumer. Jules Lecoing se met à regretter le fils de sa première femme. Il n'était peut-être pas dégourdi, mais il était affectueux. Il se dit que quelquefois, il n'a pas de chance avec les jeunes. Avec sa femme, le ménage va plutôt bien. Il est vrai qu'ils ne se voient tous les deux que le soir, parce qu'ils sont très pris par leur travail. Vendredi soir, pendant le repas, Jules Lecoing dit qu'il aimerait bien passer la fin de semaine à Deauville. Sa femme, qui est en face de lui, est enchantée. «
Merveilleuse idée, tu as, Jules !»
Frédéric laisse tomber bruyamment sa fourchette dans l'assiette. «
En tout cas, moi, je n'y vais pas. »«
Et pourquoi ?»
demande Jules Lecoing.
« Parce que j'ai prévu autre chose avec des copains. »
Tu n'as qu'à te décommander.
Non, impossible. Et puis que ferai-je avec vous deux à Deauville?
Il sera tout simplement avec nous.
C'est ça, pour m'emmerder.
Sois poli. Et puis tu iras avec nous.
Non, je n'irai pas.
C'est ce que l'on verra.
Frédéric sort de table.
Viens tout de suite.
L'enfant sort de la salle à manger. Père se lève. France lui touche le poignet. Laisse. Qu'est-ce que ça peut faire s'il ne veut pas venir? Le père soupire.
Pour une fois que nous aurions pu partir ensemble.
Il se rassoit. Tu crois, Jules, que tu cherches à tout prix à couver cet enfant? C'est parce que tu te sens coupable vis-à-vis de l'autre. Mais l'on ne rachète pas une faute en voulant à tout prix donner à l'un ce que l'autre aurait dû recevoir. Surtout que ce qui convient à l'un ne peut pas convenir à l'autre. Ils ont tous deux des caractères différents. Ne force pas Frédéric à vivre comme Daniel. Jules Lecoin soupire.
Tu as raison et tu as tort. J'agis ainsi, c'est parce que j'aime Frédéric et que je souffre de le voir me rejeter, rejeter mon affection.
Donne-lui plus de liberté, laisse-le vivre comme il l'entend et tu verras, il viendra de lui-même vers toi. Jules Lecoin, en sortant de table, va dans la chambre de Frédéric. Il lui dit qu'il pouvait ne pas venir avec eux, mais il est inquiet. Que va faire un jeune de 13 ans tout seul? Il s'en confie à sa femme dans sa chambre. « Ne te fais pas de soucis, le réfrigérateur est rempli, il a un peu d'argent de poche, et puis il est dégourdi. » Le lendemain matin, Jules Lecoin et sa femme partent en voiture pour Deauville. Frédéric dormait encore. Sa mère n'a pas voulu qu'il le réveille. Frédéric s'est réveillé à 10 heures. La chambre est baignée de soleil. Il se lève. Met ses chaussures. Sort de la chambre. Et va dans la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Est arrivé en fin d'après-midi à Deauville. Après avoir pris une chambre dans un hôtel, ils se sont promenés sur la plage. Jules est inquiet et se demande ce que fait Frédéric. Dans sa chambre, il téléphone à Lyon. Pas de réponse. Quelque chose lui dit qu'il se passe quelque chose d'étrange. Il téléphone à nouveau, mais à un voisin de palier. Il est 21h.
Allô, je suis chez Monsieur Champerdry.
Oui.
Je suis Monsieur Jules Lecoin, votre voisin de palier. Je me permets de vous déranger parce que j'essaye de téléphoner à mon fils chez moi. Mais ça ne répond pas. Ne pouvez-vous pas, s'il vous plaît, sonner chez lui, savoir s'il y est?
Ça ne m'étonne pas qu'il ne réponde pas. Il n'a pas dû entendre la sonnerie du téléphone.
vais aller voir. »
Il est allé sonner à l'appartement de Jules. Pas de réponse.
Allô, monsieur, je ne crois pas qu'il y soit.
Jules Lecoing est très inquiet. D'une chambre minable, un lit défait en fer, une armoire 1930, un bidet où baignent des chiffons tachés d'excréments, un paravent crasseux crème qui cache un lavabo, les volets sont fermés. À terre, au pied du lit, se trouve un vieux poste de radio transistor noir. Frédéric se penche pour le mettre en route. Il n'y arrive pas. Peut-être cette foutue prise. Il se lève. Se trouve dans la pièce qui le regarde un homme d'une cinquantaine d'années, chauve sur le devant, habillé d'une gabardine marine. Il semble nerveux, inquiet. Frédéric s'approche de lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va?
C'est-à-dire que je n'ai pas d'argent.
Comment tu n'as pas d'argent?
Non, mais ça ne va pas la tête.
Frédéric s'approche de l'homme. Il le pousse dans le fond de la chambre.
Ça ne va pas aller comme ça, tu sais. Tu m'as fait venir jusque-là, il faut que tu payes. Tu as vu le mec dans l'escalier tout à l'heure? Il nous a vu monter. Il va me demander l'argent de la passe. Alors, mon vieux, ou tu payes ou j'appelle la police. Et je te préviens, je suis mineur et je me drogue.
Il relève les manches de sa chemise. Montre-moi ce que tu as. Il lui fait les poches. Vieux se laisse faire apeuré. Trouve le portefeuille. L'ouvre.
Dis-le-moi, il n'y a pas d'argent.
Frédéric lui prend la carte d'identité.
Qu'est-ce que vous faites?
Je prends ta carte. Je te la rendrai quand tu m'auras payé. J'ai ton adresse.
Rendez-la moi. C'est pas mon adresse, c'est celle de ma mère. Oh, je vous en supplie, si ma mère apprenait cela. Elle est très malade.
Où habites-tu?
Rue Barrier.
Eh bien, on y va. Et je te rendrai ta carte quand tu m'auras donné 200 francs.
D'accord. Mais vous me la rendrez?
Oui. Frédéric prend son blouson sur le lit. Le met et sort. Descend d'un étage. Heures. L'hôtel de passe se trouve dans un immeuble minable, dans une rue parallèle à la rue Mercière. Arrivé dehors, c'est où ta rue Barrier?
Vers le cours Lafayette.
Se dirige vers le cours Lafayette.
Surtout ne cherche pas à te filer. J'ai ta carte.
L'homme soupire.
Je sais.
Après un quart d'heure de marche, Frédéric est fatigué.
C'est encore loin? Non, un quart d'heure.
Beaucoup plus loin que tu me l'avais dit.
Enfin, ils arrivent. C'est un petit immeuble de 4 étages, moderne et luxueux. Ils entrent. Monte au premier. Ouvre la porte de son appartement. Il entre.
Restez ici et ne faites pas de bruit.
Le vieux a laissé Frédéric dans le hall et revient 2 minutes plus tard. Il lui tend l'argent.
Tenez.
Frédéric lui donne sa carte et il se part. Demi-heure plus tard, il se trouve sur les quais du Rhône. Il est assis négligemment sur un banc. Un homme pas très grand, les cheveux grisonnants, le visage ridé, habillé d'un imper beige, s'assoit à côté de lui. Frédéric se tourne vers lui et met sa main sur sa braguette. « Il fait chaud ce soir. »«
Oui. »
dit le vieux timidement. « Tu cherches quelqu'un ?»«
Oui. » »«
Avec moi, il faut payer. »
Combien ?
200. Et tu me payes à manger après. Ça te va ?
Oui.
Alors, on y va ? Frédéric se lève. Tu viens ? Le vieux se lève.
Où va-t-on ?
Chez toi, si tu veux. C'est où ?
Quartier Saint-Jean.
Et ils y vont. Une heure plus tard, Frédéric et le vieux sortent d'un vieil immeuble quartier Saint-Jean. Frédéric lui dit « Tu me payes une bouffe ?»«
Oui. »
« Je connais un petit restaurant, rue Mercière. » Et ils y vont. Arrivé dans un petit café-restaurant minable, Frédéric commande une salade et des frites. Le vieux a pris une bière.
Savoir comme j'ai faim. Ce travail-là, ça épuise. Enlève ta gabardine, mets-toi à l'aise.
Le vieux enlève son imper. Frédéric le prend pour le mettre sur un porte-manteau vers la porte d'entrée. En posant l'imper, met les mains dans l'imper et trouve un trousseau de clés. Il le met dans sa poche, puis s'en retourne vers le vieux. Passant devant une table, il donne le trousseau de clés à un jeune de 20 ans à peu près, brun et mince. Puis retourne s'asseoir à sa table. Qu'est-ce que j'ai faim ? Le jeune à qui il a donné le trousseau de clés a disparu. Frédéric mange et fait boire son vieux. Le jeune homme revient et en passant devant le porte-manteau, redépose les clés dans l'imper. Un quart d'heure plus tard, le vieux et Frédéric sortent du café-restaurant. Une heure plus tard, Frédéric et le jeune homme se retrouvent sur les quais de Saône. Ils se sont arrêtés devant la passerelle. Frédéric lui dit « Tu as pris empreinte ?»«
Oui, et à partir de demain, on surveille les allées et venues et on agit. »
La nuit est douce. Frédéric et le jeune homme marchent un peu.
Pourquoi fais-tu cela, Frédéric ? Tu n'y es pas obligé. Tes parents sont riches, tu es étudiant. Tu ne fais pas ça pour vivre.
Je fais ça, c'est pour l'aventure, le goût du risque. On ne sait jamais sur qui l'on va tomber. Et puis, cela me permet d'avoir beaucoup d'argent. Mais je crois que ce qui me plaît le plus, c'est d'être en dehors de la société, emmerder tous ces vieux cons qui jouent aux moralistes et qui font pire que les autres. Le jeune homme le quitte.
Rentrant chez lui, Frédéric boit un demi-litre de bière et va se coucher.
Jules Lecoing, inquiet, a décidé de rentrer à Lyon avec sa femme dans l'après-midi.
Il ouvre la porte de son appartement.
Il fait noir, une odeur de bière et de transpiration les prend. Jules éclaire, pose les bagages dans le hall d'entrée.
Il va vers la chambre de son fils. Sa femme le suit. Il frappe à la porte. Pas de réponse, il ouvre.
Il fait noir, éclaire, voit Frédéric couché de travers sur le lit, tout habillé. Au pied du lit, une bouteille de bière. Sa femme reste dans l'encadrement de la porte. Lui s'approche du lit. Se penche.
Frédéric.
Il sent la bière. Le secoue. Frédéric se réveille en faisant la grimace.
Frédéric, mon salaud, tu es encore ivre.
Se soulève.
Quoi ? Petit con.
Il le gifle.
Tiens, profite pour se saouler pendant que nous ne sommes pas là.
Florence s'approche.
Qu'y a-t-il ? Il est malade ?
Mais non, il a trop bu. Je m'en vais le mener sous la douche et après je vous donnerai une bonne correction.
Il essaie d'attraper l'enfant qui se débat.
Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! J'irai moi-même sous la douche.
Petit morveux, tu vas te laisser faire ou je te gifle.
La mère appuie et maintient la main du père.
Laisse-le aller à la salle de bain seul.
L'enfant en profite pour se dégager.
Complètement saoul.
La mère hausse ses épaules.
C'est pas grave, il a bu un peu de bière. Il faut lui pardonner. Tu l'aimes bien.
Le père se redresse.
Bien sûr que je l'aime bien. C'est justement pour cela que je me mets dans tous mes états, parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose.
Ils semaines plus tard, le samedi soir, Frédéric sur les quais était interpellé par un homme. C'est 200 francs.
Police.
L'homme lui montre sa carte.
Papier.
Frédéric ne bouge pas. L'homme lui fait les poches. Trouve son portefeuille. L'ouvre.
Tu es mineur. Viens avec moi.
L'homme tend la main. L'enfant se sauve en courant. L'homme lui court après. Frédéric a traversé le pont, s'est trouvé derrière l'opéra et a traboulé. D'un quart d'heure, il s'est arrêté de courir.
J'ai chaud. Merde. Et mes papiers? Ils vont me retrouver et je risque d'être arrêté et mis en maison. Qu'est-ce que je vais faire?
Il rentre chez lui, il est 21h. Il retrouve son beau-père au salon qui regarde la télévision. Sa mère est partie chez une amie.
Tu rentres bien tard, mon grand.
Frédéric s'assoit à côté de lui. C'est étrange. Ce soir, en regardant son père, il le trouve bien et bon. Pendant quelques minutes, il a envie de lui parler. Papa.
Oui.
Son père le regarde surpris. Il est rare lorsqu'il appelle papa.
Je t'écoute, mon petit. Tu as quelque chose à me dire? T'as besoin d'argent?
Pourquoi pense-t-il toujours que l'on a besoin d'argent chaque fois qu'on cherche à lui parler?
Tu n'as rien à me dire.
À quoi bon? Il est dans son monde. Il se sent tout petit, comme il dit. Il ne peut pas comprendre. Ils sont tous deux dans un monde différent.
Ils sont tous pareils, les adultes.
À 22h, ils se sont retirés dans leur chambre. Frédéric ne dort pas. Il attend que son père dorme. Énor, il sort de sa chambre en blouson. Évitant de faire de bruit, il suit le couloir. Ouvre la porte du bureau de son père. Il entre. Ferme la porte derrière lui. Il s'approche du bureau. Ouvre les tiroirs. Trouve une clé, la prend et s'approche d'un tableau qui est sur le mur. Il le fait pivoter. Tableau caché un coffre dans le mur. Frédéric, avec la clé, essaye de l'ouvrir. Il l'a ouvert. Dedans se trouvent bien rangées des liasses de billets et un revolver. Il prend une liasse de billets et le revolver. C'est la première fois qu'il en tient un dans la main. Ça fait étrange d'avoir cette chose qui tue. La porte s'ouvre. Il tourne la tête et voit son père en pyjama.
Qu'est-ce que tu fais là?
Le père s'approche de Frédéric.
« Pourquoi as-tu besoin d'argent?
Parce que je m'en vais. J'ai les flics à mes trousses.
Tu fais?
Des choses, tu ne comprendrais pas.
Peut-être bien, mais je peux t'aider. Cet idiot de prendre tant d'argent et de foutre le camp, ça ne résout rien. Allez, donne-moi cet argent. Fais-moi confiance.
Le père s'approche du fils.
Moi confiance, je t'aime.
Père est de plus en plus près. Frédéric recule.
Ne veut pas être pris. Si son père s'approche encore plus, il sera pris.
Sent dans sa main le revolver. Tant pis.
Il tire comme cela, sans viser.
Bruit, le retour, la surprise. Beau-père qui est tombé à terre, jette le revolver sur le plancher. Il retourne. Quelques liasses de billets dans le coffre. Il sort de la pièce sans regarder son beau-père. Il sort de l'appartement. Et de l'immeuble. Jules Lecoing est resté allongé sur le ventre, une légère douleur au front, son visage est couvert de sang, il est conscient.
Frédéric, Frédéric, pourquoi tu fais cela? Frédéric, Daniel, je ne peux plus me relever, venez m'aider. Pardonnez-moi de vous avoir mal aimé. Daniel, Frédéric, pourquoi tout ça? Je ne peux plus bouger. Oh, Daniel, Frédéric, Frédéric, tu es un homme maintenant. Tu l'as prouvé en me supprimant. Mes enfants...
Un mois plus tard, le frère de sa femme est sorti de prison. Il avait été accusé de plusieurs viols, sauf d'un. Il n'y avait pas eu plainte. Celui de la première femme de Jules. Le frère de sa femme était le père de son premier fils.
Thank you.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les confusions du Pélican. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.